Bienvenue sur la French Radio. Bonjour. Rebonjour Jean-Guillaume, on s'était eu il y a quelques instants.
Mais oui, toujours là.
Mais oui, toujours là. Laurence aussi. Laurence qui cherchait directement sur le site lafrenchradio.pt comment écouter la radio. Il y a un petit triangle, il suffit juste de cliquer dessus. Et si vous l'avez sur votre appli mobile, eh bien vous faites de la même manière. Voilà. Disons les choses simplement. Bon, allez, on va parler voyage. Qu'est-ce que vous en pensez ? On parle voyage ?
Ah bah partons, moi je suis partant.
Moi aussi. Et on va demander à Sandrine. Est-ce que Sandrine est avec nous ? Hello Sandrine.
Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Laurence. Bonjour Guillaume.
Bonjour à tous. Bonjour toute seule.
Voilà. Pas si toute seule que ça. Hein. J'ai eu une invasion dans la cuisine il n'y a même pas deux minutes. J'ai mis tout le monde dehors. Là.
Ah, carrément.
Ah oui, là.
Alors vous avez fait une belle tournée ?
Ouais, c'était très sympa. C'était intense, mais c'était bien sympa. Voilà, on est rentré hier avec plein d'adresses, plein de photos, plein de jolies rencontres, plein de jolis produits.
Alors, vous étiez où, en Algarve ?
Non, je n'ai pas fait que l'Algarve. Nous sommes partis depuis Lisbonne. Mm-hmm. Et en fait, on a fait toute la côte littorale. Donc, on s'est arrêté à Comporte, à Melilla, à Sines, à Praia da Rifa. Après, on a fait la côte de l'Algarve et on est remonté par le Alentej, mais côté frontière espagnole. Tout ça en une semaine. Extraordinaire.
Ouais. Et donc, vous avez vu voilà.
Ça peut se faire en une journée. Hein.
Ouais.
Si on ne sort pas de la bagnole, ça se fait en une journée.
Ouais, si on ne sort pas de la voiture, mais c'est quand même bien dommage de sortir de la voiture.
Jean-Guillaume, si on le fait voilà. En avion, ça peut se faire en une demi-heure. Hein.
Exactement. Ouais. Et du coup, ce qu'on pensait être topissime, finalement, c'était pas si top que ça. Et puis, on a eu des belles surprises.
On est bien d'accord que Comporta, c'est surcoté.
On y a été parce qu'on voulait quand même voir, mais c'est vraiment bien d'aller rayonner parce que finalement, ce qu'on voit. Sur les photos et autres, on est quand même un petit peu loin de la vraie réalité. Il y a quand même d'autres coins qui sont beaucoup plus sympas, moins peuplés, plus authentiques aussi.
Avec moins de moustiques.
Les moustiques, il y en a un petit peu partout au Portugal, surtout en cette période avec cette chaleur. Mais il y a plein de temps. Enfin, voilà. Et si les auditeurs, si les personnes qui nous écoutent veulent avoir des conseils, des photos et en savoir plus, il faut vous abonner à la page de la French Radio, la nouvelle page. Et cette semaine, je posterai plein de petites photos, plein de petites adresses sympas. Donc, abonnez-vous à la page, d'accord ?
Ça marche. Voilà. Bon, oui, allez, on parle de quoi aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on prend la carte du Portugal à l'envers et on ne va pas dans le sud, on va dans le nord. Okay.
Donc ça veut dire que quand je la prends à l'envers, ça veut dire que je regarde en bas et je monte.
Si on la prend à l'envers, on va se retrouver dans le sud, dans le nord.
Mais c'est ça.
Parce que là, on vient de parler du sud, donc on repart de l'autre côté, on part dans le nord cette fois-ci.
D'accord.
Voilà, je vais vous proposer, vous suggérer un petit trio très sympa, d'accord. Donc au programme du jour, le charme du nord. Avec ses vieilles pierres, son fleuve mythique et un terroir gourmand. Aujourd'hui, je vous emmène vers trois villes très sympas. On commence du côté de Porto. Donc voilà, on arrive à Porto, direction votre hôtel. Là, il y a pas mal de choix. Ce que je conseille vivement, c'est de loger bien évidemment dans le centre historique. Parce que c'est beaucoup plus sympa pour rayonner. Et là, il y a plein de petites adresses de charme au cœur de la cité. Donc, écoutez-vous et faites-vous plaisir. Une fois la valise ou le sac ou rien du tout, d'ailleurs, déposé, pourquoi pas aller voir la mer, enfin plutôt l'océan, parce que Porto, avant tout, c'est la ville d'un fleuve, le Douro, qui se tient... un petit peu éloigné du tumulte océanique, mais il y a aussi la mer pas très loin. Ce que je conseille lorsqu'on arrive là-bas, c'est de prendre son vieux tramway qui est toujours en activité et on accède facilement aux plages et aux terrasses. Donc, vous pouvez franchir le fleuve et vous rendre du côté de Vila Nova de Gaia. Et c'est ici qu'on trouve en fait toutes les plus grandes et belles maisons de Porto. Et pour bien faire le tour, en fait, je conseille de rester deux nuits sur cette jolie ville, d'aller vous balader dans le centre historique, d'aller profiter des restaurants. Enfin voilà, Porto, c'est vraiment une ville où on flâne, on se balade. Il y a pas mal de monde qui souvent hésite, Porto, Lisbonne. moi qui vis sur Lisbonne, et arrêtez-moi si je me trompe, il n'y a pas vraiment d'éléments de comparaison. C'est ni mieux ni moins bien, c'est juste différent.
C'est à faire.
Voilà.
À faire, à voir.
À faire et à voir. Ça nécessite moins de temps quand même que Lisbonne, qui, pour les personnes qui connaissent vraiment Lisbonne et ses alentours, comprendront et confirmeront que Lisbonne, on peut y rester quand même vraiment plusieurs jours.
Alors, combien de jours à Porto ?
Porto, moi, je conseille 3 jours de nuit. Voilà, exactement. D'accord. Et Porto, je conseille de le combiner toujours.
Avec le Douro, bien
sauf
sûr.
Si vous... Ouais, voilà, 2 jours. Je conseille toujours de le combiner, sauf si vous faites un city trip, un week-end. Je conseille toujours de le combiner avec d'autres villes aux alentours. C'est beaucoup plus sympa. Donc, en deuxième étape, direction.
Alors je vous arrête. On reste toujours à Porto. Qu'est-ce qu'on fait à Porto ? Est-ce qu'on va dormir de l'autre côté du fleuve, du Douro, ou est-ce qu'on dort côté Porto ?
Non, là, avec ce que je vous propose, et même sans ce que je vous propose, on dort côté Porto.
D'accord, vous n'allez pas sur la ville qui se trouve juste en face, où là on retrouve toutes les...
Oui.
Non ?
Là, on va boire des coups à Villanova de Gaia.
Oui, mais quand vous êtes à Porto, c'est comme les personnes qui vont à Lisbonne 2 jours, on ne va pas leur conseiller de passer le pont et d'aller dormir de l'autre côté du pont ou d'aller dormir à Cache-Cache. Vous voyez, c'est comme si vous survolez l'âme.
Mais on va quand même le dire aux gens, il faut absolument passer quand même 1 heure, 2 heures, 3 heures en face. Vous passez le pont qui a été construit par Gustave Eiffel. Qui a été sur...
Non.
Tout le monde a...
Non.
Il a été sur le modèle
d'un modèle. Gustave
Eiffel. Exactement.
Par un ingénieur qui a travaillé avec Gustave Eiffel, mais pas par Gustave Eiffel.
Exactement.
Il ressemble vraiment.
Ce pont devait être inauguré par le roi du Portugal qui ne s'est pas déplacé. Et donc, en bas, il n'y a pas marqué sa référence pour dire qu'il est venu, que le pont a été inauguré par le roi.
Ils l'ont boudé.
Voilà.
C'est une période où le roi n'était pas très apprécié. D'ailleurs, il a été renversé peu de temps après.
Mais vous allez voir que le Douro...
Alors, continuez,
on y vient dans mon petit séjour. Mais de façon subtile, avec du temps.
Donc, vous étiez à Guimarães. Voilà. Donc, vous partiez directement de Porto sur
Guimarães. Là, on va direction Guimarães, son fameux château. Guimarães, c'est une ville aux multiples visages.
Très belle ville.
Voilà, magnifique. Berceau quand même de la nation portugaise au XIIe siècle. Hein. Il faut rappeler quand même que c'était la première capitale du Portugal. Et aujourd'hui, c'est une des villes les plus jeunes d'Europe pour sa population et les plus attirantes du nord du pays aussi. Donc, on y retrouve son centre historique médiéval, qui est vraiment très agréable à découvrir. On traîne, on prend des photos du centre historique avec ses larges avenues, ses rues aussi reliant des places bordées de maisons anciennes. Et on va bien évidemment visiter son château avec le donjon de 28 mètres et la chapelle Saint-Michel, le palais des ducs de Bragance, influence bourguignonne, donc un petit clin d'œil bien évidemment à la France, construit au 15e siècle avec pas moins de 39 cheminées en briques, rien que ça. La Guimarães, installation de 2 nuits dans le centre historique toujours. Et puis là, deux hôtels, un petit hôtel coup de cœur. Il y a un petit manoir en fait qui date du XVIIe siècle. Ça s'appelle Casa do Juncal, très sympa. Il est implanté au sein de la ville en fait. La décoration y est très élégante, donc on est loin des moquettes et des tapis un peu vieillottes, donc ça a été un petit peu rénové. Et puis c'est surtout vous séjournez dans un hébergement avec une histoire, d'accord. Pour le côté charme et caché, il y a aussi la Pousada Mosteiro de Guimarães, qui est un petit peu plus éloignée. On est à peu près à 1,5 km du centre. C'est en fait un ancien couvent des Augustins qui date du XIIe siècle. Et puis là, la Pousada est belle. Elle surplombe Guimarães. Et puis, comme il fait très, très chaud à certaines périodes de l'année, il y a une très belle piscine extérieure qui est grande et très agréable. Du côté de Guimarães, qu'est-ce qu'on fait aussi ? On peut aller découvrir la jolie ville de Viana do Castelo, qui est à l'embouchure du fleuve Rhin. C'est une agréable ville qui est pourvue de nombreuses activités sportives et qu'on peut pratiquer sur le fleuve ou sur la mer. Un patrimoine architectural très présent, qui n'en reste pas moins aussi avec l'élégante Praça da República et sa jolie fontaine qui date du XVIe siècle. Vous y trouverez aussi l'église de la Miséricorde, il y a son pont qu'on doit à un ingénieur de Gustave Eiffel, donc voilà, inspiré, et l'incontournable basilique de Santa Lucia qui veille sur la ville tout en offrant de sa colline spectaculaire une vue panoramique juste extraordinaire. Ensuite, dernière étape de ce petit périple, donc Guimarães aussi deux nuits, voilà, deux belles journées, d'accord, donc Porto, deux belles journées, Guimarães aussi vraiment deux belles journées pour prendre le temps, profiter, faire plaisir aussi à votre palais aussi, parce qu'il y a des petites spécialités très sympas sur place à déguster. Et dernière étape, pas des moindres, route vers l'est et l'arrière-pays portugais, donc direction Pinhão pour deux nuits aussi. Là, on pose ses valises dans un très bel hôtel qui date du XVIIe siècle, donc The Vintage House, qui est en fait un ancien domaine viticole. Et là, l'hébergement surplombe des vignes. C'est juste magnifique. On est juste en face de la vallée du Douro et aussi dispose d'une très belle piscine extérieure offrant une vue panoramique sur le fleuve juste extraordinaire. Donc, imaginez après une visite, une journée de visite, de vous poser là ou même le soir parce que le ciel est très étoilé à certains moments de l'année. Donc imaginez cette vue juste hallucinante avec un petit verre ou pas. Voilà, là normalement vos émotions devraient être au summum. Au programme, on découvre la vallée du Douro. Alors moi, je conseille de la découvrir avec vraiment un guide vraiment spécialiste de la destination, de la région du moins, de faire la vallée en jeep parce que vous allez passer par des petits coins où on ne peut pas accéder forcément en voiture. Donc dégustation de vin dans une quinte. Je conseille aussi d'aller aussi visiter les fameuses caves où on stocke en fait les tonneaux de vin, de faire des dégustations et bien évidemment de faire la traditionnelle croisière sur le Douro, loin des touristes, en rabelo privé. Rabelo, R-A-B-E-L-O. Alors, qu'est-ce que c'est un rabelo? Le rabelo, c'est un petit bateau utilisé au Portugal pour le transport fluvial, des fûts de vin, en particulier sur le Douro, entre la région viticole de Porto et de Vila Nova de Gaia. Et cette balade sur le Douro permet d'apprécier au fil de l'eau les vues sur Pinhão, les vignobles environnants et leurs quintas. Le parcours serpente au cœur d'une des plus belles parties du Douro, qui est forcément pas visible des routes côtières. Donc voilà, c'est juste une excursion extraordinaire et très sympa à faire. Pour le séjour avec ces beaux hôtels-là, parce que bien évidemment, je vous ai mis des belles adresses, mais vous avez aussi la possibilité de séjourner en alojamento local avec des appartements et des adresses très sympas et moins chères que les hôtels, bien évidemment, que je vous ai proposés. Mais avec les hôtels, donc, et sur une semaine à peu près, comptez sur un budget environ de 900 à 1100 euros la semaine. Voilà.
Bon, vous allez nous mettre tous les hôtels, bien entendu, sur...
Exactement. Voilà. Les adresses, les photos, les conseils. Et puis, abonnez-vous à la page. Et puis, je vous fais tout ça là, durant le week-end.
Ah, génial. Elle va devoir travailler.
Sympa, ce nord du Portugal. Ouais.
Et ce qui est bien, c'est que...
elle bosse le week-end.
Sandrine, on sera obligé d'y retourner au moins une semaine pour voir encore Braga, etc. Enfin,
il y a
encore...
Vous avez tout compris. Bah ouais. Et là, sur mon futur road trip, parce que je vais attaquer le nord du Portugal, que je connais un petit peu. Mais
non, l'attaquez pas, ils n'ont rien fait.
Bon, je ne vais pas l'attaquer, je vais caresser le nord du Portugal.
Ah, voilà.
Voilà, là je vais aller faire un petit tour du côté do Minho, do Douro, et on va aller aussi du côté des Gerais dans les prochaines semaines. Voilà, ouais. Et n'hésitez pas aussi, j'ai fait ma petite pub la semaine dernière, si vous m'autorisez Thierry, n'hésitez pas aussi à me solliciter, on a une agence Évasion Lisbonne qui va bientôt s'appeler Évasion Portugal, donc si vous voulez des petits conseils et des adresses aussi pour séjourner, n'hésitez pas bien évidemment à me solliciter.
Eh bien, on ne va pas hésiter, Sandrine. Voilà, merci beaucoup. Merci pour vous avoir eu en ligne comme chaque semaine. Vous nous faites découvrir le Portugal.
Et juste un truc, Sandrine, alors c'est un peu le piège. Parce que Pignon, c'est là où il y a une ancienne gare, j'allais dire SNCF, une ancienne gare
oui, bien sûr, c'est ça,
ferroviaire ouais. qui a été transformée en un lieu de dégustation de vin, c'est ça?
Je vous promets de répondre à cette question quand je repartirai faire.
Je ne voulais pas vous mettre dans l'embarras.
Ah, mais c'est fait.
Je ne suis jamais embarrassée, vous
c'est
en
fait.
Pas.
C'est fait. Non, mais en parlant de gare, bien entendu, Porto, allez voir la gare qui est exceptionnellement belle. Voilà. Je ne sais pas si vous...
Ouais, très belle.
La gare
très,
est... Très belle. Et vous avez des... N'est-ce pas, Laurence? La gare de
oui,
Porto.
Oui, Panajuelos.
Panajuelos, qui est splendide. Voilà. Et il y a un ou deux restaurants qui sont à côté qui sont délicieux. Malheureusement, j'y pense à l'instant, je n'ai pas les noms, donc on essaiera de redonner les noms.
Magnifique. Et pour nos éditeurs qui ont la chance ou qui auront la chance de pouvoir visiter, si vous voyagez un petit peu à travers le monde entier, sachez que lorsque vous partez en Inde, du côté de Bombay, il y a aussi une gare. Et en fait, les colonies portugaises ont été très, très présentes en Inde, donc un peu plus du côté de Goa. Et dans cette fameuse gare de Bombay, il y a des moulures en fait, au plafond qui sont exactement les mêmes que dans la gare de Porto. Et c'est un clin d'œil, en fait. Donc, c'est quand même sympa de se dire que de côté de Porto, et à l'autre bout du monde, on retrouve une touche de nos ancêtres portugais. Donc voilà, je voulais aussi le souligner.
Et merci Sandrine. Et puis là, on va partir du côté de Blem. Blem en français, Blem en portugais. Et on va retrouver Nicole du comptoir parisien. Et là, pareil, de la même manière, eh bien, figurez-vous que c'est une touche de restaurant parisien, bistrot français qu'on retrouve au Portugal. Voilà, on va avoir, j'en profite, je surfe un petit peu sur ce que vous avez pu dire. Et on va retrouver tout de suite Nicole. Bonjour Nicole.
Bonjour Thierry, vous allez bien?
Ça va très bien. Et puis Sandrine, on va vous remercier encore une fois pour nous avoir fait découvrir le nord du Portugal en prenant la carte à l'envers, comme vous nous avez si bien dit tout à l'heure. et puis nous a fait parler de Porto et bien entendu de la région du Douro. Et on attend de découvrir des nouvelles régions. Je rappelle que toute la semaine, la plupart du temps, actuellement, vous séjournez, vous vous promenez un petit peu partout dans le Portugal pour nous faire découvrir ces belles adresses.
Hello.
Merci Sandrine, on vous embrasse bien
fort.
Vous
nous mettez. À tous.
Vous nous préparez évidemment le texte, tout, pour qu'on puisse le publier dès lundi matin sur le site de la French Radio.
Je vous envoie tout ça.
Sans faute d'orthographe, Sandrine, j'y veillerai.
Bien mais là, entendu, je compte sur vous.
On mettra le son.
D'accord, je compte sur vous, Guillaume.
Voilà.
Okay.
Et Laurence vient de casser encore les micros. Ça devient une habitude. Elle ne l'avait pas fait depuis quelques semaines, donc voilà, mais là, ça recommence.
Oui.
Nicole, comment ça va avec ce beau temps?
Et vous, alors, est-ce que vous m'entendez déjà?
Parfaitement bien.
Ah oui, on vous entend beaucoup.
Oh là là, c'est pro.
J'ai fait un petit réglage aujourd'hui. Donc tant mieux. Tout va bien avec ce beau temps. Les gens commencent un petit peu à ressortir, ce qui fait plaisir.
Ça y est, ils ont retrouvé le chemin de votre terrasse?
Ouais, plutôt le soir en fait, parce que le soir, ça devient très, très agréable. À la fraîche, c'est un bien grand mot. Mais
oui.
C'est vrai que la journée, les gens ont plus tendance à aller à la plage. Donc, c'est un petit peu plus calme. Mais le soir, du coup, les gens viennent prendre l'apéro.
Je suis en train de mettre des bêtises, excusez-moi. Je suis en train de mettre un son qui vient de partir en même temps. Donc, voilà, pardon, ça y est, excusez-moi.
Que les gens viennent prendre l'apéro, manger des petits tapas. Non, c'est hyper agréable. Parce qu'on n'a pas le soleil qui tape, c'est vraiment très agréable. Et c'est au calme. Non, très, très bien.
Donc, ça reprend doucement, gentiment.
Doucement, mais sûrement. Voilà, on a bon espoir.
Ah, c'est bien ça.
Et en tout cas, moi, je vais le dire, j'ai déjà eu l'occasion d'y aller deux fois depuis le déconfinement. Deux fois, c'était excellent, ça fait du bien. On se retrouve en terrasse, c'est sympa, on a un accueil exceptionnel, le sourire, on mange bien. Je sais que Jean-Guillaume, vous qui êtes un amateur de tartare, et pour cause, parce que vous avez écrit.
Non, ça me rappelle le boulot, moi ça me rappelle le bureau.
En tout cas,
non, mais il y a plein d'autres choses.
Il y a plein d'autres choses.
Et
moi, personnellement, si je dois recommander une entrée, Laurence, c'est.
La fricassée de champignons. Voilà.
Ah ouais, la fricassée de champignons. Elle est à tomber par terre.
Hein, voilà, avec l'œuf poché.
Avec l'œuf poché, elle est à tomber par terre. Donc franchement, si vous voulez passer un bon moment, vous allez, alors on l'a dit, donc le midi, bien entendu, mais maintenant le soir, parce qu'il fait très bon le soir et que c'est vraiment l'occasion d'en profiter, eh bien vous allez au comptoir parisien. Le comptoir parisien, ils seront vraiment prêts à vous accueillir. Ils sont top, un accueil sympa, on mange des recettes
de la vraie cuisine.
C'est de la vraie cuisine faite maison, voilà, ça j'ai pu déjà le souligner, mais c'est vrai que c'est de la vraie cuisine faite maison avec des produits frais. Voilà, donc.
Bah ouais, mais c'est suffisamment. Il faut le dire parce que c'est.
Il y a le tartare. Voilà, il y a plein de bonnes choses. Il y a l'onglet, l'échalote. On a le confit de canard. Voilà, tout ce qui est bon, typiquement français, cuisine bistrot. Et puis un petit peu de portugais. Mais en ce moment, comme on a quand même pas mal de Français qui viennent, c'est vrai qu'ils ne mangent pas trop portugais. Voilà, c'est plutôt de la cuisine française. Et ça, c'est vrai qu'on s'aperçoit que finalement, le fait qu'il n'y ait pas les touristes, on travaille plus avec des gens qui vont manger de la cuisine française plutôt que portugaise. Donc en ce moment, le bacalao, ça n'a pas trop de succès. Voilà, on voulait faire les sardines, mais bon, voilà.
Et pourtant, votre crumble de bacalao, c'est un truc qui a traversé les frontières.
Le crumble, oui, c'est encore un des plats qui fonctionne bien en plat portugais.
Et puis, ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai comme vous tenu des restaurants en France. Les jours de brandade de morue, c'est comme le hachis parmentier. Hein, c'est le truc, on sait que tout va y passer. Hein.
Oui, mais
En France.
Oui, mais ici, c'est pareil. Si on a vraiment beaucoup de monde, ça y passe. Mais bon, en ce moment, c'est pas trop. Voilà. On s'adapte à chaque jour. En proposant des plats surtout français et puis un petit peu de portugais. Mais voilà.
Ouais, c'est vrai que ce qui manque quand on vit au.
On va rendre notre carte, mais là pour l'instant, on ne peut pas. Voilà.
Ce qui manque un peu, pour moi en tout cas qui suis au Portugal depuis peu, ce qui manque un peu, c'est trouver une bonne pièce de viande avec un bœuf qui ne soit pas un broutard, mais un vrai bœuf, qui soit relativement maturé et qui.
On a aussi, hein, parce qu'on se sert, comme je disais la dernière fois, on se sert chez Talio
de Campo.
Donc on a vraiment de la très bonne viande et à l'unanimité les clients qui viennent manger la viande la trouvent excellente.
Je peux en témoigner.
Voilà. Ouais. Donc, Talio de Campo a quand même une bonne réputation au niveau de la viande, donc voilà, on a vraiment de la bonne viande.
Ben oui, mais c'est vrai que c'est entre guillemets le seul reproche qu'on pourrait faire au boucher portugais, c'est la viande qu'on trouve.
Il coupe pas la viande pareil qu'en France en fait.
Mais il la coupe pas beaucoup en fait, il la coupe pas beaucoup puis il la mature pas.
Voilà, il ne la mature pas. Donc, elle est souvent trop fraîche, trop dure.
Exactement,
oui. La viande rouge, saignante ou bleue, ils ne connaissent pas trop, en fait. Hein.
Non. Voilà. Non.
Le bœuf qu'ils vont cuisiner, faire cuire très, très longtemps. Donc, voilà.
Mais en tout cas, Nicole, quand on vous entend, on voit l'amour de la...
L'amour de la gastronomie.
De la gastronomie.
Du produit.
Recevoir les gens. Voilà,
donc, on va rappeler, Nicole, où vous êtes. Alors, vous êtes à Belém, ça, on l'a dit. Vous êtes entre le palais présidentiel et, comment ça s'appelle, les pâtés.
Les Géronimos.
Oui, les Géronimos.
On est face au jardin, en fait.
Oui, face au jardin, sur une super terrasse où là, vraiment, on a de la place. C'est hyper sécure. Vous avez pu, bien entendu...
Très calme.
Vous avez mis en place vraiment en plus toutes les normes de sécurité sanitaire. Et puis, vraiment, pour vraiment le situer facilement aux gens, eh bien, un espace que tout le monde connaît, c'est les Pastéis de Natas, qui sont la référence mondiale, hein, où tout le monde, ben voilà, vous faites 20 mètres à pied, vous traversez juste, vous allez en face, et puis vous allez trouver la terrasse tout de suite. C'est facile.
Oui, il y a une espèce de petit passage.
Le soir, c'est vraiment très, très agréable.
Ouais.
Là, ça fait déjà une petite semaine. Le soir, il fait genre 26 degrés. On est à la fraîche, il y a un petit vent. C'est vraiment très, très agréable.
Et tous les...
prendre l'apéritif, pas forcément manger. Hein,
non, et puis toutes les...
l'apéritif, une petite sangria ou quoi, c'est vraiment...
Et puis toutes les semaines, vous proposez un menu un petit peu différent. Vous adaptez, voilà, vous changez, vous faites évoluer.
Petite verrine d'asperges en entrée. Voilà, toutes les semaines, un petit magret de canard. Toutes les semaines, on propose quelque chose de nouveau. Voilà.
Génial. Eh bien, écoutez...
N'hésitez pas. Si vous venez de la part de la French Radio, de toute manière, un petit apéro digestif au son père.
Ah, c'est gentil pour les...
Accueil chaleureux, voilà. Mais en même temps, c'est pour tous les clients pareil. Hein. Accueil chaleureux, c'est ça.
Accueil chaleureux, mais
c'est
en plus...
C'est pas que pour la French Radio.
Mais on a dit, par contre, s'ils disent le mot French Radio, eh bien, ils auront un apéritif.
Pour le kir.
Bon, en tout cas, merci Nicole.
Merci à toute l'équipe.
On est content de savoir que... que ça redynamise, que ça repart. Voilà, il fallait peut-être un petit peu la première semaine, c'est un peu la mise en route.
Oui,
et puis on le dit aux gens, voilà, n'hésitez pas, allez-y, allez soutenir. Parce que moi, c'est vrai qu'en discutant avec beaucoup de personnes, eh bien, on ne cesse d'en parler en disant il faut soutenir la restauration et les restaurants. Donc, et beaucoup de gens me disent, eh bien, on va y aller, on va le faire. Alors profitez-en, en plus maintenant il fait beau, c'est l'occasion rêvée d'être en terrasse et de pouvoir le soir dîner tranquillement, voilà, de prendre même quelques vins, des rosés, ouais. Des rosés français par exemple, hein. Ça nous manque.
On a le Château Minuti, on a tout, plein de bons vins. Voilà.
Exactement, des Minuti et le tout, bah, évidemment, dans des prix très, très abordables. Voilà, il faut le répéter. Merci Nicole. On vous embrasse, on vous souhaite en tout cas une très très bonne journée, ça va être l'heure des infos, et puis ensuite on va se retrouver avec Laura, et un très très bon week-end à vous, voilà. Merci. et plein de succès dans cette reprise.
Merci, au revoir.
Voilà, c'est l'heure des infos, ensuite on va se retrouver avec Laura pour son trait d'humour, les infos de Vincent Barros.
La French Radio Info Portugal, Vincent Barros.
Bonjour à tous. Le nombre de victimes mortelles du coronavirus au Portugal s'élève désormais à 1369. La Direction Générale de la Santé a annoncé hier le premier décès enregistré dans la tranche d'âge des 30 à 39 ans. Quant aux personnes contaminées, leur nombre vient de connaître une hausse de plus de 300 cas, une première depuis 20 jours. Le Portugal compte désormais près de 31 600 cas positifs. Cela signifie que le taux de létalité du virus s'établit maintenant à 4,3%. Lisbonne et ses alentours font désormais l'objet, pour reprendre les mots du président, d'une attention particulière. Marcelo Rebelo de Sousa a confirmé hier la préoccupation que suscite la région de la capitale, où de nouveaux foyers de contamination sont apparus ces derniers jours, notamment dans les quartiers pauvres de la périphérie. Dans celui de Jamaïca, à Seychelles, les cafés vont être fermés, a priori pour 2 semaines, dans le but de freiner l'épidémie. C'est une décision difficile qui attend le chef du gouvernement ce vendredi en Conseil des ministres. António Costa doit décider ou non de la réouverture des centres commerciaux dans la région de Lisbonne. Réouverture prévue initialement ce lundi lors de la troisième et dernière phase du déconfinement. Mais le Premier ministre pourrait laisser les portes closes en raison du contexte épidémiologique. En revanche, la réouverture des centres commerciaux et des salles de spectacle dans les autres régions du pays ne serait pas menacée. Réponse aujourd'hui. À partir de la semaine prochaine, le télétravail ne sera donc plus obligatoire. Les employés qui souhaitent continuer à travailler depuis chez eux devront obtenir un accord écrit de leur employeur. Le gouvernement va conseiller aux entreprises de mettre en place des roulements avec des équipes en télétravail pour prendre les devants et prévenir une éventuelle deuxième vague de contamination en fin d'année. En attendant, 2 catégories de travailleurs sont dispensées de retourner physiquement sur leur lieu de travail. Ceux qui doivent s'occuper de leurs enfants à domicile, l'école étant fermée, mais aussi les personnes risques qui ont déjà été diagnostiqués positifs au Covid-19 ou qui présentent des symptômes. Il faudra peut-être la consulter avant de se déplacer cet été à la plage. Une application mobile, baptisée Info Praia, vient d'être lancée par l'Agence portugaise pour l'environnement. Par un code couleur, vert, orange ou rouge, cette application indiquera la capacité d'accueil de chaque plage cet été. Leur accès, pour rappel, sera limité à partir du 6 juin pour éviter les grosses affluences et garantir le respect des règles sanitaires, notamment une distance d'1,5 mètre entre chaque personne. Du côté de la météo, on termine la semaine comme on l'avait commencé, avec de grosses chaleurs et des températures au-dessus des normales de saison. 4 districts sont d'ailleurs en alerte jaune, ceux de Braga, Leiria, Lisbonne et Setúbal. Dans l'après-midi, le ciel va légèrement se voiler. Des averses et même quelques orages sont attendus dans le nord-est du pays. Les températures donc, 27 degrés sont prévus à Porto, 33 à Coimbra, 32 à Lisbonne, jusqu'à 34 à Évora, mais aussi 26 à Sagres et 30 à Faro. Une dernière information pour signaler qu'en raison des fortes chaleurs annoncées, le risque d'incendie est annoncé comme très élevé dans 14 districts ce week-end, surtout dans l'intérieur du pays et jusqu'en Algarve. Une très bonne journée à tous.
Merci beaucoup. Voilà, c'était les informations de Vincent Barros. 11h37 minutes. Ouais, on l'a entendu quand même. Il faut faire attention. Attention aux incendies.
Ouais, comme tous les ans au Portugal, hein, ça c'est.
Faut faire attention.
C'est une constante.
Ouais, et si en plus il y a du vent, ça va pas améliorer les choses. Donc,
il faut savoir que la plupart des incendies
sont criminels,
sont dus à la négligence des gens. Hein, donc, oui, c'est vraiment
ou fait volontairement.
voire fait volontairement pour les plus tarés, mais c'est vraiment, c'est, entre guillemets, c'est pas une fatalité, quoi. Ça ne tient qu'aux gens.
Ça ne tient qu'aux gens. Bon, mais, ouais. Eh ben, écoutez, hein, c'est comme ça. Bon, Laura, comment ça va?
Bonjour.
Bon, elle est là, la dingue. Ah oui, elle est
je
là.
Je suis là. Comment allez-vous?
Oh, la présentation. Oh, c'est grave.
Bah oui. je n'ai pas compris.
On va appeler un chat et une Laura, une dingue. Voilà, point barre.
Comment allez-vous?
Ça va bien, Laura, et vous?
Bah écoutez, moi, je vais très bien. Je suis là comme chaque vendredi, chère équipe de la French Radio, chers auditeurs, pour vous régurgiter les infos de la semaine de
Vincent
Barros.
Je voulais avoir des nouvelles de votre postérieur, Laura.
Ah, très bien. Je donnerai des nouvelles de mon postérieur. Alors moi, je vais vous régurgiter les petites infos de Vincent, qui n'a pas tout vu cette semaine. Je suis là pour vous faire donc un point info. Ça y est, c'est officiel, Thierry, les plages ont réouvert, mais c'est une catastrophe. Les gens se sont rués sur la plage, les 10 mètres carrés ne sont pas respectés. Je suis donc retournée voir la ministre de la plage, hein, Madame Moule, qui est formelle. Cela va être très difficile de respecter les 10 mètres carrés. Il va falloir respecter de nouvelles règles. Je propose donc de faire la technique de l'autruche, hein, méthode employée au quotidien par mes confrères politiciens. Il suffit tout simplement de faire un trou dans le sable et d'y foutre sa gueule. Ainsi, je garantis aucun risque de contamination buccale. Au niveau des mains, je vous recommande de les frotter très régulièrement avec du gel hydroalcoolique, hein, plus communément appelé en latin merdus gelus cancerogenus. À force d'user ce gel, vous allez perdre vos mains qui tomberont naturellement. Sans mains, pas de contamination, pas de bras, pas de chocolat. Voilà, toujours selon Madame Moule, qui continue, je recommande également d'éviter de faire la planche dans l'eau pour ne pas envoyer le virus dans le ciel. Donc, si vous avez une crampe, il sera plus prudent de vous noyer afin d'éviter toute contamination. Affaire à suivre. Dans la suite de l'actualité, Thierry, c'est avec une grande joie que le président Macron a accepté de ne pas imposer la quarantaine aux Français voyageant au Portugal. Les Français seront donc présents cet été au Portugal. Le ministre portugais des vacances, Luis Billet dans le Fion, se réjouit et m'a confié pour la French Radio, nous allons ouvrir les frontières pour ce mois de juin. Nous allons donc pour cela couper le bout de scotch qui empêchait l'entrée des voitures. Bien évidemment, nous enlèverons également les tapettes à souris géantes ainsi que les bouts de gruyère qui sont actuellement positionnés à l'entrée des frontières. Excusez-moi.
Elle se marre de ses propres bêtises.
J'aime pas trop la manière dont vous parlez des tapettes, mais enfin.
Non, nous allons construire également. C'est alors, original. Vous l'avez vu, ça, Vincent nous l'a confirmé. Nous allons construire un couloir touristique de la France au Portugal afin de garantir une circulation des voyageurs sans risque. Ce couloir touristique sera fait de boyaux de porc. J'invite donc Roman Polanski à nous envoyer ses boyaux le plus tôt possible dans une enveloppe bulle. Voilà. À l'entrée du couloir touristique, nous positionnerons un nain. Il suffira de lui dire le mot de passe pour entrer dans le couloir. Nicolas Sarkozy aurait déjà postulé à l'offre d'emploi à faire à suivre. Dans l'actualité également, nous avons eu la confirmation. Les festivals ou les festivaux, je ne sais plus comment ça se dit, seront interdits jusqu'au 30 septembre. C'est une catastrophe économique et culturelle. Je suis donc allée voir le ministre de la Fête, Rouille Rail de Coke, qui m'a communiqué ces chiffres. Selon lui, il y aura une baisse de 72% de ventes d'alcool cet été. Et catastrophe, une baisse également de 93% de ventes de préservatifs de taille XS à la fraise. Afin d'aider ces secteurs grandement touchés, nous allons autoriser la prostitution. Nous invitons donc l'ancien président italien Berlusconi à venir nous donner des leçons. Berlusconi, comme vous le savez, qui est le chef de file de la politique corruptiano-prostituto-politico, va donc venir passer ses vacances au Portugal. C'est une info French Radio, c'est une exclue. Berlusconi, ancien président italien, est également vétérinaire de père en fils depuis 2018. On comprendra mieux pourquoi Berlusconi signifie en italien « j'aime les chats ». Voilà. Enfin, pour finir dans l'actualité, on ne sait pas encore ce qu'il va arriver à ce bébé de 1 mois, vous l'avez vu, enfermé dans l'aéroport de Roissy. C'est un scandale. Officiellement, le bébé portugais n'aurait pas l'autorisation d'entrer dans le territoire français. Donc, toutes les associations se sont révoltées. Mais moi, vous me connaissez, hein, Thierry, j'ai des amis un peu partout dans le milieu mondiale. Donc, je suis donc allée voir le directeur de l'aéroport de Roissy, hein, Victor Bombe dans l'avion, qui m'a confié, en réalité, nous avons perdu la petite clé qui ouvre la porte de la salle d'attente où est enfermé le bébé. Cette clé de couleur grise aurait été avalée par la femme de ménage à son insu. La femme de ménage atteinte d'une constipation sévère n'est pas encore en mesure de rendre la clé. Nous allons donc procéder ce week-end à un processus d'accélération du transit, Thierry, qui consiste à écouter en boucle les musiques de Larousseau. Voilà. Selon le directeur de l'aéroport, elle devrait chier la clé ce dimanche. Je vous remercie beaucoup, Vincent. Prends-en de la graine.
Oh, on va lui passer. Je pense qu'on va lui passer.
Tu savais même pas où était la clé, Vincent.
Petite clé de couleur grise.
En tout cas, vous avez
gris,
des.
C'est les pires. Moi, je les perds tout le temps, les clés grises.
En tout cas, vous avez de belles lunettes roses. Hein.
Oui, bah, écoutez, on fait comme on peut, quoi. On cache la misère. Les gens sont attirés que par les lunettes. C'est un piège.
Bon, et ben, félicitations, Laura, pour votre chronique hebdomadaire.
Investigation.
Alors, on dit des festivaux quand il y en a plusieurs.
Ah, ben ça, je savais plus, j'ai eu un doute. Hein,
Comme quand il y a plusieurs chevals.
Ah, ben voilà.
Et on dit pas chevals, on dit pas cheval, c'est festivals.
On dit Manuel Valls. Voilà. Ah non, on le dit pas, ça.
On le dit pas.
Ça fait de la peine.
J'ai eu un gros doute et je me suis dit que la French Radio allait m'aider. Hein.
Ouais, alors on dit. J'avais jamais entendu d'ailleurs si on disait des festivals. Non, on dit pas des festivals, on dit des festivals.
Ça dépend s'il y en a plusieurs.
Bah non, on dit quoi, des festivals, hein.
Bah, vous faites partie de cette bande de chacos qui ne parlent pas bien le français.
Mais vous ne me dites pas qu'on dit des festivals quand même. J'ai jamais entendu
mais
ça.
Bien sûr que non, on ne dit pas des festivals.
Ah, vous me rassurez, parce que là, vous étiez en train de faire croire qu'on devait dire des festivals. Et là, vous m'inquiétiez.
On dit des festivals quand c'est la fête de tous les veaux qui sont nés dans l'année. Mais c'est autre chose.
Ah, oh là 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 là, vous compliquez les choses, Jean-Guillaume. Désolé. Vous compliquez les choses. Bon, et ben en tout cas, merci Laura. Moi, Laura, bah,
merci
écoutez.
Merci beaucoup.
Écoutez, on va se passer un intermède musical. Comme vous avez parlé
un
de votre ami.
Un intermède musical, dites donc.
Pas mal, hein. L'expression était. Quoi, elle vous a pas plu, mon expression?
Ah, si. J'adore l'ORTF.
C'était bien, non?
Ah oui.
Non, vous avez pas aimé? Eh ben,
Si. Il y a un côté Pierre Tchernia dans ce que vous venez de dire.
Ah ben, moi, je trouvais que c'était pas mal. Hein. Alors moi, je vais vous dire, je vais passer musicalement. Qu'est-ce que vous diriez, Laura, d'un week-end à Rome? Voilà, vous avez parlé de Berlusconi. Alors,
week-end à Rome.
Voilà, on va aller faire... Voilà.
Je suis pour... qu'est-ce qu'il chante déjà? Oui, je vois tout à fait le qui chante, mais je ne me rappelle plus de son nom.
Étienne.
Gage Paty.
Dao au singulier. Voilà, Dao au pluriel.
Exactement.
Dao. Il y a une H.
Bon, voilà. Merci Laura. Laura, on se retrouve la semaine prochaine, heure, vendredi, pour nous parler un petit peu de toute l'actu. Et puis, bien entendu, je pense que vous allez pouvoir contacter de nombreux ministres, tous les ministres qui vous appellent continuellement. Madame Moule, principalement, parce que c'est la saison actuelle. Tous les autres qui sont présents quotidiennement pour vous délivrer des informations exclusives, hein, je le précise.
Exclus pour la French Radio.
Exactement.
Merci pour... voilà,
que même eux, ils ne les connaissent pas, ces infos.
Ah non, ils les découvrent, et même nous, hein, on les découvre de minute en minute, et puis de temps en temps.
Mais Vincent fait très mal son travail, il loupe des choses, et heureusement, je suis là pour...
Heureusement, vous êtes là. Et il y a des fois, je m'arrache un peu les cheveux en disant, qu'est-ce qu'elle ne va pas me sortir. Elle me fait un petit peu trembler.
Je salue Berlusconi,
voilà.
Au passage.
Allez, on l'embrasse bien fort.
Silvio,
si tu nous écoutes. Silvio, ouais. Bon, allez, on vous embrasse, à la semaine prochaine. Week-end à Rome.
Merci, bonne journée.
À tout de suite.
Salut les auditeurs.
Salut.
Ciao. Paris est sous la pluie.
escapade à deux. La pluie m'assomme, gris m'empoisonne, week-end à Rome. Pour la douceur de vivre et pour le fun, puisqu'on déjeune, week-end létal.
Voilà, Week-end à Rome, Étienne Dao. Ça va, Jean-Claude?
Ça nous rappelle des tas de trucs, ça, parce que ça, c'est pas tout jeune. Hein.
C'est pas votre, c'était pas votre envie, Laurence, d'aller faire un petit week-end à Rome?
Si, si, mais ça ouvre bientôt, hein, les frontières. Faut encore avoir envie. Mais...
Bon, après, elle est en Italie actuellement.
Non, on va attendre un peu quand même.
On va attendre un petit peu, hein, je pense que. Voilà, mais.
Même si ça stagne un petit peu, mais la Lombardie difficile. Est quand même, ouais, très touchée, apparemment,
c'est,
ça continue.
C'est plus dans le nord, à mon avis, à Rome. Il vaut mieux aller à Rome qu'à Milan quand même.
Ouais, voilà, la Lombardie, voilà. Hein, pour oui. Milan est très,
ouais,
touchée.
Il y a encore Rome... pas mal hier, hein, de, ouais, de cas.
Donc, ouais, Rome, ça va à peu
comme
près.
Comme à Lisbonne, il y a beaucoup plus de cas actuellement aussi.
Ouais, il y a une petite remontée. On parle plus de certains quartiers. Où peut, voilà. Voilà. Mais bon, on va dire que quand même, dans l'ensemble, ça se...
Bon, bah, Didier Raoult a dit qu'il n'y aurait pas de deuxième vague, apparemment. On n'en sait toujours rien, mais...
Quel... Passe, c'est amusant quand même, toute cette polémique, hein, sur...
Sur, oui, sur...
Sur l'hydro...
Bah, c'est pas de la polémique, c'est de la non-information, en fait. C'est les journalistes qui tournent en rond et ils se disent qu'est-ce qu'on pourrait trouver, un truc intéressant.
Non, mais un jour,
tiens, s'il y avait une deuxième vague, parce que pour l'instant, on a trouvé nulle part de deuxième vague.
Voilà, oui, non, hydrochloroxydrine...
Le problème, c'est
pas...
quand on écoute les informations, aujourd'hui, on n'a plus d'informations.
Mais vous avez vu que tout est...
On a tout et rien.
Tout est quand même particulier, parce que même quand on parle, par exemple, là, il y a eu une étude, l'étude qui a été faite par les laboratoires Lancet, qui a dit que l'hydrochloroxydrine était,
en tout cas,
n'avait, ouais, pas de, ne, aucun résultat.
Déjà, l'étude probant, n'est pas très longue.
Mais l'étude n'est pas très longue. En plus, on se rend compte que ceux qui ont fait l'étude dépendent d'un autre groupe laboratoire qui propose un autre produit. Donc, qui croire? Et
en tout cas, l'Espagne a maintenu.
Ouais, l'Espagne a maintenu.
Le Maroc aussi.
Le Maroc aussi. Voilà. On se sent un peu pris en otage, nous. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ouais, je pense que. Enfin, au Portugal, je pense qu'ils continuent aussi. Hein. Ça n'a pas été.
Ils continuent quoi?
Bah, ils ont aussi le.
L'hydrochloroxydrine, oui. Ouais.
Ils l'ont aussi.
Absolument.
Ils soignent avec ça aussi.
Enfin.
Bon. Je sais pas, moi je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu le truc alors.
Bon, et ben en tout cas.
Bah non, on l'a pas eu, heureusement.
Bon, allez, on va continuer. On va pas faire un grand débat là-dessus. Maintenant, si les gens veulent évidemment s'exprimer sur ce thème, s'ils veulent qu'on redéveloppe, on fera venir à ce moment-là un spécialiste et on pourra toujours le développer. Mais bon, je préfère quand même qu'on passe côté positif et qu'on parle quand même un petit peu
de l'avenir,
de plage ou autre. Si des personnes veulent intervenir directement pour nous parler de leur commerce ou autre et qu'ils n'hésitent pas, ils peuvent nous contacter directement la French Radio. On serait ravis de pouvoir leur donner la parole. Non, Jean-Guillaume ?
Bah évidemment. Hein, Laurence, évidemment, voilà. On est là pour ça.
Donc, si vous êtes commerçant...
Surtout si les gens ont des histoires à nous raconter, comment ils ont réagi, comment ils ont...
Voilà, comment ils se sont réadaptés.
Comment ils ont réadapté leur activité, etc. Comme on l'a vu hier, mercredi...
Avec Elena Mornard.
L'émission d'Elena, voilà, il y a des gens qui sont pleins de ressources.
Voilà,
Elena... C'est intéressant à entendre.
Et d'ailleurs, je précise que cette émission, vous pouvez la retrouver en podcast sur le site lafrenchradio.pt. Elena Morna, vous l'avez. Et on a trois cas bien particuliers de réadaptation. On a dont deux personnes qui résident au Portugal, dont une start-up qui a complètement changé. Il fait des masques.
Ben oui.
Il fait des masques alors que juste avant, il était dans...
Il faisait des voyages.
Il faisait des balais toilettes.
Non, le voyage... En même temps, le voyage pendant le confinement...
Ouais, et puis même actuellement, c'est quand même un peu difficile.
Oui, absolument. Oui. Bon. Je pense que pour l'année 2020, le voyage, ça ne va pas être une bonne année. Hein, je pense.
Non, ça va être compliqué.
Bah non, c'est pas
bon,
trop comment
en tout cas, bouger. En tout cas, que dire de plus écoutez, tout va bien. On se passe... Qu'est-ce qu'on on a tout à l'heure on va parler un petit peu avec François de Blood Wine. On va parler d'une recette.
Bien sûr.
Et puis là, je vous propose peut-être que l'on parle... ou on fait musique. Musique jusqu'à 13h, jusqu'à midi plutôt, jusqu'aux infos.
Jusqu'à 13h.
Non, mais 13h, je regardais parce que l'heure de Paris me donnait 12h54, mais il est 11h54 à Lisbonne.
Il est 11h54.
Voilà, mais comme j'avais effectivement les infos de Paris qui étaient en train de se mettre en place, donc je regardais, je me suis dit, ce sera les infos de 1h, de 13h. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On se passe un petit peu de musique ?
Bah oui.
Allez, tout oublié ?
Mettez-nous un disque.
Allez, tout oublié, Angel et Romeo Elvis. Allez, à tout de suite sur la French Radio.
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter, d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie, parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Il faudrait tout oublier. Il faudrait tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué. À ce bonheur, si je le veux, je l'aurai.
N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols.
Il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé, oublie qu'elle t'a perdu. Tout ce que t'avais, si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Il faudrait tout oublier. Tout oublié, on joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai.
que le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Que le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être.
Si ça me fait juste heureux, si tu le voulais, tu le serais.
Voilà, le spleen n'est plus à la mode. T'oublier Angel et Roméo Elvis.
Bah c'est bien, c'est rafraîchissant.
Ah ouais, ça marche bien. C'est... Moi, j'aime bien, c'est sympa. Et ils cartonnent en plus. Hein. Ils sont belges. Hein. Ouais, et ils sont frères et sœurs. Hein.
Voilà, et tous les deux cartonnent.
Oh là là.
Quoi ? Vous saviez pas ?
Ah non, bah non, non, non.
Vous découvrez.
Je n'avais jamais entendu parler ni de l'un ni de l'autre. Alors, qu'est-ce que vous voulez
dire ? Ah bah voilà, et bah maintenant, vous le savez. Voilà, maintenant, vous savez.
Pourtant, Angel, passer à côté, c'est quand même difficile.
Ah ouais. Comment
ah
faites-vous
ben... Non, moi j'y arrive bien. Hein.
Sans
moi,
trop...
J'y arrive super bien.
Sans trop sourciller. Bon, allez, il est 11h59 minutes. On est sur la French Radio.
Et on est... Et on est... Vous avez vu, on est en avance, on n'est même pas en retard.
C'est rare, hein. D'habitude, on est toujours à la bourre. Hein. Et ben pour une fois, on est à l'heure. Alors,
et qu'est-ce qu'on fait ? On ne mettrait pas les infos à 56 pour s'excuser de toutes les fois on les a mises à 0h, à 2h04.
Vous voulez, pourquoi vous pensez que là, si on fait une minute d'avance, ça va permettre de compenser le retard ?
Ben, non, comme ça, en moyenne, on peut dire qu'on est presque à l'heure.
Ah ouais.
Non,
ouais,
on peut pas faire ça, ça marche pas ça.
Mais si, on peut. Écoutez, moi, je pense que si les auditeurs
sont
OK, on peut.
Moi, j'ai passé une grande partie de ma vie à être tout le temps en retard.
C'est vrai.
Et je me disais, si je veux que j'arrive un jour très en avance, et je rachèterai tous mes retards. Non, ça marche pas. Hein.
Bah écoutez, faites-le et puis on verra. Hein. On ne sait jamais. Hein. Ouais, maintenant, le problème que vous risquez d'avoir, je vais vous dire, c'est que comme si ce sont les mêmes personnes que vous voyez habituellement, étant donné qu'ils ont peut-être pris l'habitude.
Ah
ben bah,
j'ai plus d'amis à force d'être en retard.
Non,
j'ai plus d'amis.
Mais même si jamais ils ont pris l'habitude de vous voir souvent en retard. Donc, s'ils ont pris cette habitude de vous voir en retard, bah à ce moment-là, on va penser qu'ils ne seront jamais là en avance. Donc, quand vous arriverez, vous attendrez tout seul et qu'ils arriveront avec
absolument.
Eux-mêmes quelques minutes de retard. De votre fait et de votre faute. Bon, allez, c'est l'heure des infos. On se retrouve tout de suite, juste après, avec notre chronique auto. Puis ensuite, on va parler aussi recettes food. OK ? À tout de suite.
La French Radio, la radio de tous les francophones au Portugal. La French Radio, votre radio, notre radio.
Bonjour, le verdict est tombé ce matin. Ce sont bien 4600 postes qui vont être supprimés chez Renault en France. Le constructeur a présenté son plan d'économie, un plan qui vise à économiser 2 milliards d'euros sur 3 ans et éviter le naufrage. Ce sont 15 000 emplois qui vont être supprimés dans le monde, des départs volontaires en priorité. Le retour à une vie presque normale avec la phase 2 du déconfinement dévoilée hier par Édouard Philippe. Fin de la limitation des déplacements à 100 km. Mais attention, ce sera à partir de mardi. Les contrôles sur les routes seront maintenus ce week-end, a prévenu ce matin Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. À partir de mardi également, réouverture des cafés et restaurants dans les départements en vert, les terrasses seulement en Île-de-France, classées orange. Les parcs et jardins seront ouverts sur tout le territoire, et ce, dès demain pour la plupart. Toutes les écoles vont rouvrir, idem, mais plus progressivement pour les collèges et les lycées. Jean-Michel Blanquer a précisé ce matin que le protocole sanitaire dans les écoles ne sera pas allégé. Nous n'avons jamais dit que 100% des élèves retourneraient à l'école, c'est impossible, a par ailleurs ajouté le ministre de l'Éducation. Ce matin, le Premier ministre s'est à nouveau exprimé à l'issue d'une réunion avec les représentants des associations de maires. Édouard Philippe a annoncé de nouvelles aides pour les communes et notamment 1 milliard d'euros dans un fonds d'accompagnement des investissements verts des communes. À l'étranger, situation toujours plus dramatique aux États-Unis où la courbe du nombre de décès liés au coronavirus repart à la hausse. Près de 1300 hier pour un total de plus de 100 000 morts dans le pays. Vive inquiétude en Amérique du Sud et notamment au Brésil où pour la sixième fois de suite on a enregistré plus de 1000 décès. C'est en 24 heures. Retour en France, la consommation des ménages s'est écroulée en avril, une chute d'un tiers, plus de 33% selon l'INSEE, une baisse plus forte qu'en mars puisque les Français ont vécu confinés pendant tout le mois d'avril. Et puis ce soir, c'est la fête des voisins, une fête particulière forcément. Les organisateurs de l'événement appellent à faire preuve de plus d'ingéniosité que d'habitude et invitent les voisins à rester prudents et à respecter les gestes barrières. Le rendez-vous a d'ailleurs été rebaptisé Fête des voisins aux fenêtres et aux balcons. Voilà pour l'actualité, très bon après-midi à vous.
Alors, chez qui vous allez ce soir ?
J'ai pas de voisins, j'ai pas d'amis.
Oh, C'est vrai. Mon pauvre. Voilà, attendez, je vais peut-être pas oublier.
Non, mais c'est la fête des voisins en France. C'est pas les fêtes des voisins au Portugal. Au Portugal, les gens n'ont pas besoin d'une fête des voisins parce que les gens se connaissent, se parlent, etc. Et ne semblent pas détester de se croiser dans la rue.
Ouais. Non, c'est vrai, on n'a pas, non, on sent vrai. Pas d'animosité.
C'est vrai qu'en France.
Non, non, bah oui, oui. Ouais, c'est... France, vous savez quoi, hier j'étais en train de courir et j'ai vu un type en moto qui s'est fait taper par une voiture. La voiture était 100% en tort. Mm-hmm. Ça a été un petit peu violent, mais le type s'en est plutôt bien tiré. Il n'y a pas eu un mot au-dessus de l'autre. C'est-à-dire que le type de la voiture est sorti en s'excusant 1000 fois et il n'y a pas eu l'ombre d'un début de commencement de tension.
Ben oui, c'est ça qui change.
Ben oui.
C'est, ben ça, oui, qui change. Ça qui change. Bon, et ben en tout cas, ben oui, on le sait. Alors, moi, ce que je vous propose, ben, c'est qu'on parte tout de suite sur notre chronique auto.
Ben oui.
La chronique aujourd'hui, je crois qu'il va nous parler d'Alfa Romeo, hein, c'est ça. Hein.
Exactement.
Exactement. Puis ensuite, on va parler de la Giulia. Giulia, joli prénom. Et bien entendu, qu'on retrouve avec notre partenaire BateriaOnline.pt. Vous nous expliquez un petit peu ce que c'est ?
Baterias Online, baterias-online.pt, c'est un site qui vous vend des batteries, mais pour tout, que ce soit les bateaux, les camping-cars, les voitures, les engins de levage, les jouets, enfin.
Et à des prix, très intéressants. Et en plus.
Oui, parce que ce sont des importateurs eux-mêmes de batteries, donc ils ont accès à des tarifs
privilégiés.
Usine, évidemment. Et ils en font profiter. Vous allez profiter de 25 à 40% de réduction sur le prix d'une batterie par rapport au commerce habituel.
Exactement.
Et si sinon, vous pouvez même aller dans leur magasin, faire monter votre batterie, si vous voulez. Ils sont à côté de Ikea, à Alfragide. Et puis, l'autre magasin est à Santarém. Et vous aurez même droit à un diagnostic gratuit pour savoir où en est votre batterie.
Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que vous y allez directement, vous prenez rendez-vous, vous y allez directement, ils parlent français, et vous dites, bah voilà, j'aurais regardé pour voir où en est ma batterie. Ça évite d'avoir la mauvaise surprise et de se retrouver bloqué au milieu de la route.
Oui, parce qu'après, la batterie, quand elle vous lâche, elle vous lâche.
Elle vous lâche. Et là, il n'y a plus rien à faire. Puis là, vous êtes planté en plein milieu. Là, il faut appeler la dépanneuse, le machin. Ça finit par coûter cher. Alors, peut-être autant vérifier en avance. Et puis, si en plus, vous venez de la part de la French Radio, eh bien, vous avez la batterie gratuite. Non, je plaisante.
Non, ils vous offrent une voiture. Non, Thierry, si votre batterie est usée, ils vous changent la voiture.
Ils changent la voiture. Merci, Baterias Online. Alors, la voiture. C'est pourquoi pas.
Bon, on est désolé, hein, c'est pour de rire. On est bien d'accord.
Bon, qu'est-ce qu'ils offrent ? Ils nous offrent, je crois.
Quand vous redonnez votre batterie usée, vous avez droit à 15% de réduction supplémentaire parce que ils vous offrent ce qu'eux auraient gagné en recyclant la batterie.
Voilà.
Parce que les batteries se recyclent à 99%.
Voilà. Donc, c'est un beau cadeau. Voilà. Allez, on écoute tout de suite.
Baterias-online.pt.
Voilà. On écoute tout de suite l'autopromo. Et ensuite, voilà. Et on démarre. Et en même temps, le téléphone sonne. C'est fabuleux.
La panne de batterie, ça arrive à tout le monde. Nous avons la solution livrée chez vous en moins de 48 heures. Bénéficiez même d'une remise de 15% en recyclant votre vieille batterie et en visitant nos centres experts Baterias-online.pt. Retrouvez les conseils utiles de montage et d'entretien et toutes les adresses utiles sur le site. Le journal vous est présenté par bateria-online.pt.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une voiture un peu particulière, tant elle apparaît, à mes yeux, comme étant la voiture idéale. J'entends par idéale par sa polyvalence. Cette polyvalence qui consisterait aussi bien à la prendre pour faire ses courses que pour faire la course. Je reconnais que c'est un peu bizarre comme approche, mais aujourd'hui, je n'ai rien trouvé de mieux pour capter votre attention. Mais arrêtons de tourner autour du pot. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Alfa Romeo Giulia Quattrononfo Verde. Bon, on va l'appeler QV, ok ? Alfa Giulia QV. Alors, disons-le tout net. Alfa Romeo, c'est le fabricant de voitures qui est capable du pire comme du meilleur. Cela va de la Fiat Punto recarrossée et estampillée du Biccione, et qui donc se prend pour une Alfa, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Mito, à de véritables monuments de l'automobile. Et je pèse mes mots, comme cette berline bon teint, presque discrète, et qui vous proposera de passer sur ses roues arrière 510 chevaux. 510 chevaux provenant d'un V6 aux origines on ne peut plus noble, puisque issu du V8 Ferrari. Jolie lignée, non ? Alors, je vous vends pas du rêve, là ? Pas encore ? Alors sachez que très récemment, ce petit monstre s'est payé le luxe de battre le record de sa catégorie sur le Nürburgring. Ils peuvent pas faire leurs essais à Spa, c'est pas possible ça. Hein. Bon, sur l'enfer vert, voilà, 7 minutes et 32 secondes. C'est 6 secondes, c'est énorme. De mieux que la, soi-disant, référence des berlines, la Porsche Panamera Turbo. Et je ne vous parle même pas des autres concurrentes comme la RS4 ou la M3, purement et simplement satellisées. Alors évidemment, à propos de ces petites concurrentes, on est peut-être un petit cran, et je dis bien un petit cran, en dessous en matière de finition. Mais bon, en même temps, dans ces fameuses allemandes, s'il y a une finition au top, côté ambiance, c'est aussi chaleureux que la déco chez Dark Vador. Et puis oui, effectivement, l'écran multimédia est tout petit. Ah, sauf que dans ce genre de voiture, le seul écran qui compte, c'est le pare-brise. Lui vous donnera les vraies informations et surtout le plein de sensations, comme tout le reste de la bête. Le moteur est rageur à partir de 4000 tours. La boîte automatique ZF, 8 rapports, rapide et parfaitement étagée, sachant qu'une boîte mécanique est disponible. Le train avant est accrocheur. C'est bien simple, selon moi. Avec celui des Peugeot, c'est ce qu'il y a de mieux pour guider une voiture. Et en plus, il y a un très bon retour dans le volant. Un train arrière, joueur, juste ce qu'il faut, avec cette petite absence de grippe à chaque passage de rapport, quand on est dans la zone rouge, n'est pas aussi caricatural qu'une classe CMG qui, au final, n'est pas vraiment exploitable. Bref, l'association moteur-boîte et châssis est cohérente. Une vraie Alpha, c'est d'abord un charme fou, des défauts agaçants qui peut-être, et paradoxalement, renforcent l'attachement que l'on peut avoir pour ces voitures, et une ligne quasiment sensuelle. Vous regardez une Giulia, vous savez que c'est une Alfa Romeo. Trouvez-moi une autre marque généraliste ayant autant de personnalité. Alors je vous entends déjà me dire « Oui, mais t'es pas très objectif, t'es un alphiste. » Alors d'abord, je vous propose que l'on en reste au vouvoiement. Hein. Et puis, je ne suis pas un alphiste, je le suis devenu, et ça change tout. Car, pour que je revienne sur un a priori comme nous en avions tous il y a 25 ans sur les Italiennes, c'est qu'Alfa Romeo a ce petit supplément d'âme que n'ont pas les parfaites allemandes. Car oui, en plus de toutes ces qualités dynamiques, les Alphas ont une âme. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de le croire. Au chapitre des critiques, je trouve certains détails too much, comme le volant en 4 matières différentes. Carbone, cuir, alcantara et alu. Oui, c'est l'alu. Et pourquoi pas un airbag en bois aussi pendant qu'on y est. Et tous ces équipements aérodynamiques, comme le spoiler arrière en carbone, l'extracteur d'air apparemment indispensable, c'est dommage. Cette Giulia Cuvée, dans sa livrée Spring to Veloce, est bien plus belle car bien plus simple, plus pure. C'est l'apanage de la beauté, pas besoin d'en rajouter. Des bruits aérodynamiques des 130 km/h sont également à inscrire à la toute petite liste des points négatifs. Donc, au bilan, on peut dire que cette Giulia Cuvée est une très bonne cuvée. Oh, si c'est pas tout pourri ça comme jeu de mots, je ne sais pas encore si je l'assume. Alors évidemment, vous n'emmènerez pas toutes les semaines votre quadrifoglio verde sur le Nürburgring. Oh bon sang, je l'ai dit, quadrifoglio verde, Nürburgring, Nürburgring, quadrifoglio verde. Ah ben ça y est, je sais le dire. Bon, la semaine prochaine, je refais cette chronique. Au revoir, merci et bonne route.
Merci beaucoup Benoît, beaucoup d'humour pour en parler. Il nous refait la même chronique, mais peut-être qu'il prononcera bien le mot Nürburgring, puis peut-être qu'il connaîtra aussi maintenant le nom de la Giulia. Hein, Jean-Guillaume. Jean-Guillaume que je n'ai pas. Et voilà, Jean-Guillaume. Jean-Guillaume que je n'ai plus en ligne. Allô ?
J'avais appuyé sur le micro muet. Quadrifoglio verde.
Wow.
C'est le trèfle à quatre feuilles.
Ouais. Eh ben écoutez, hein, c'est pas mal quand même, hein, pour Alpha. Hein, c'est une belle...
Beau panégyrique de la nouvelle Alfa Romeo.
Exactement.
J'aime bien son idée de faire des airbags en bois. C'est pas bête.
Ouais. Bon, allez, on va retrouver tout de suite...
C'est peut-être plus écolo.
Allez, on va retrouver tout de suite. On va parler maintenant de votre chronique spéciale que tout le monde attend, des nombreux. Voilà, tout le monde m'envoie des SMS, des messages.
Tout le monde a faim.
Tout le monde a faim. Mais quand est-ce qu'on va pouvoir passer à table? Voilà, et François est avec nous. Hello, François.
Bonjour, Thierry. Bonjour, Guillaume.
Comment ça va, François?
François, pardon.
C'est vendredi, c'est beau. On en profite.
Bon, ça va, tout va bien chez vous? C'est le printemps? Non, je plaisante, c'est l'été.
Ah ben moi, je peux vous dire, je sais que c'est l'été. Vous avez déjà porté 15 kilos à bout de bras?
Avec
30 degrés. Comprendre rapidement que...
Avec 30 degrés. Ah, c'est bien, moi, ça me ferait du bien pour mon régime. Je vais venir travailler chez vous.
Eh bien, Thierry, on signe la convention de stage dès cet après-midi.
Stagiaire. Une convention de retour à l'emploi, peut-être.
Bon, bah, voilà. Il faut toujours encourager les jeunes qui n'en veulent.
Oh, bon. Oui. Eh ben, écoute, c'est le 36-15 qui n'en veut.
Et qui n'en veut? Allez, qui n'en veut? Ah bah c'est du quoi? Qui n'en veut?
Et qui n'en veut du hachis Parmentier?
Eh ben voilà.
Bon, est-ce que vous rappelez qui était Antoine Parmentier?
Antoine Parmentier,
c'était un apothicaire, c'était un pharmacien. C'était Antoine Parmentier, c'était le promoteur de la pomme de terre en France. Pour réellement asseoir la pomme de terre en France, qui avait pour vertu, qui venait donc des Amériques, bien entendu, et qui avait pour vertu de pousser assez facilement, de ne demander pas grand-chose comme entretien pendant qu'elle pousse, et surtout de fournir beaucoup de nourriture pour les paysans. Et les paysans étaient très dubitatifs, donc ils ne voulaient pas trop utiliser la pomme de terre. Donc, Antoine Parmentier a eu l'idée de créer ce gratin, ce hachis Parmentier, et de faire manger à Louis XVI. Et comme le roi en l'avait mangé, tout le monde s'est dit, bon, c'est que c'est pas du poison, on peut y aller sur les patates. Et c'est comme ça que la pomme de terre est devenue une des cultures principales de la France. Le hachis Parmentier, au départ, en tout cas, moi, ma grand-mère, quand elle le faisait, c'est qu'elle avait des restes de viande. Au départ, on le faisait avec des restes de viande. Il vous restait un petit peu de gigot d'agneau, un petit peu de rôti de bœuf et puis un petit peu de poulet. Et ben, vous preniez ces trois viandes, vous les passiez au hachoir et vous aviez la viande du hachis. En général, il y avait trois viandes. Bon, aujourd'hui, on le fait plus facilement avec du bœuf haché. Donc, on va partir sur cette... Mais moi, j'aime bien l'idée de recycler les restes de viande dans un hachis Parmentier, ce qui lui donne... Bon, c'est un plat célèbre de la bistronomie française, hein, c'est un vrai plat de bistrot. Je peux vous dire que quand vous en faites le midi, vous êtes sûr de tout passer. Ça, c'est vraiment un truc qui plaît beaucoup. Et pour le faire, prenez 600 g de bœuf haché, prenez un bon kilo de pommes de terre à purée. Idéalement, les pommes de terre à purée, c'est plutôt les pommes de terre avec des chairs un peu farineuses, comme la binge, par exemple, hein, qui est très bien, ou la césar, ou la marabelle, ou la vitelotte, enfin bon. Et puis, 40 centilitres de lait, 2 oignons, une carotte, 80 g de beurre, du fromage râpé, de la noix de muscade et un petit peu d'eau, évidemment, pour que sel, poivre, de l'eau. Alors, l'eau, vous la mettez à chauffer. Une fois qu'elle commence à bouillir, vous mettez dans votre eau vos pommes de terre que vous avez. Alors, pour accélérer un peu la cuisson, vous pouvez les couper en cubes, comme ça, elles vont cuire un peu plus vite. Comptez 25 minutes, 30 minutes pour qu'elle soit bien fondante. Vous enlevez l'eau. Vous passez ça soit au moulin à légumes, soit vous pouvez le faire à la fourchette, un écrasé aussi. Et une fois que vos pommes de terre sont écrasées, vous mettez le lait dedans, petit à petit, et du beurre, et vous montez votre purée avec un fouet, par exemple. Vous mettez 50 g de beurre, et vos 40 centilitres de lait, salé, poivré, un petit coup de muscade moulue, vous mélangez tout ça très bien, et vous réservez. Ou alors, pendant ce temps-là, vous avez épluché les oignons, vous les avez émincés, vous avez fait fondre une noix de beurre dans une sauteuse, vous avez fait revenir les oignons histoire de les colorer, vous avez épluché, lavé, coupé en petits dés la carotte que vous avez mélangée avec les oignons. Vous avez ajouté, bien entendu, vos 600 g de viande hachée dans la sauteuse, salé, poivré. Vous laissez faire cuire ça tranquillement à feu moyen, en remuant un petit peu, histoire que ça n'accroche pas, mais que vous ayez quand même les sucs de la viande qui se caramélisent. Ensuite, vous préchauffez votre four sur le thermostat 7, environ 200-210 degrés. Dans un plat à gratin, Sur le fond, vous mettez la viande ainsi que les oignons et les carottes mélangées. Le plat à gratin, bien sûr, vous l'avez beurré avant. Hein. On ne met jamais un gratin sans beurrer le plat. Ensuite, vous mettez la purée dessus. Sur la purée, vous mettez le fromage râpé. Vous mettez le hachis à gratiner au four pendant une petite demi-heure. Et vous servez ça bien chaud avec une belle salade frisée. C'est un régal, un bonheur, un plaisir. Avec lequel, que boit-on, cher François?
Que boit-on, mon cher Jean-Guillaume? Vous nous avez fait la recette luxe. Avec la recette originale, c'est que vous faites cuire les pommes de terre dans l'eau et vous écrasez les pommes de terre avec l'eau de cuisson.
Ah, ah. Ouais.
Ah, c'est la recette originale de M. Parmentier. J'ai fait des recherches.
Ah, d'accord. D'accord.
J'avais vous poser des... J'attendais des questions. De voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va boire? Et aujourd'hui, on va avoir une petite surprise. Il nous faut un vin de bonne structure, qui a en même temps une certaine fraîcheur, mais aussi un petit peu de vitalité pour ne pas alourdir le plat. Sinon, c'est sieste assurée. Donc, les tanins, ce n'est pas un problème, puisque vous avez la pomme de terre qui est capable d'adoucir un peu ces fameux tanins. La viande hachée, on aime bien le vin rouge avec un petit peu d'énergie, des tanins assez fins. Et le fait de remettre un petit peu de gratin dessus, ça peut nous ouvrir d'autres pistes, notamment des vins blancs. Donc, on va commencer très, très classiquement. On va partir sur l'accord parfait. Vin rouge. Et vin rouge, j'ai choisi quelque chose de très grande qualité. Un Saint-Joseph, donc de la vallée du Rhône Nord, qui vient de chez François Villard. Alors, je ne sais pas si vous connaissez François Villard, c'est une des références en Saint-Joseph, un vin qui ne déçoit, pour ainsi dire, jamais. Et ce qui est assez marrant, c'est que le vigneron lui-même a écrit sur la bouteille qu'il est fier de sa cuvée. C'est pas peu dire. C'est assez rare qu'il le fasse. Hein. Non, il est très fier de sa cuvée. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est un ancien chef cuisinier à l'origine, qui s'est mis à faire des vins. Là. Donc, on a des vins rouges avec de beaux arômes bien équilibrés. Et donc, l'accord avec le hachis parmentier, ça va être parfait. On part plutôt sur un Saint-Joseph qui a quelques années.
D'accord.
Quelque chose qui a 5-7 ans. Donc, un vin pas trop jeune.
C'est beau, ça.
Et j'ai choisi une alternative. Ouais. Et comme c'est un plat typiquement français, j'ai choisi une alternative d'un autre vin français aujourd'hui, exceptionnellement, et un vin blanc. Dire c'est bizarre. Eh ben non, ça se fait parce que la pomme de terre aime bien les vins blancs un petit peu charnus. Et là, je suis parti avec un vin qui vient d'Aix-en-Provence, sur les coteaux, qui s'appelle Villa Beaulieu, en vin blanc. Et c'est un vin qui est produit sur un ancien volcan qui est éteint. Donc, vous avez une bouche qui est assez puissante, qui va bien passer avec le plat chez Parmentier. Notamment, ce que vous faites, Jean-Guillaume, c'est que vous mélangez plusieurs viandes avec notamment vos indices du poulet. Ça peut être parfait, parce qu'on va avoir un vin blanc puissant, mais aussi qui a une belle acidité. Donc, il va réveiller un petit peu la structure assez lourde, assez grave.
C'est fait comment, ça, cette Villa Beaulieu? C'est quoi? Alors, comme cépage? Vous avez un peu de...
Je voulais en parler parce que... Ce qui est bien avec Jean-Guillaume, c'est qu'il a toujours les bonnes questions. Un cépage dont on n'entend pas très souvent parler, vous avez de la Rolle majoritairement.
Ah oui.
Et un petit peu de Sauvignon, puisqu'on est en altitude, donc on fait plutôt pousser des cépages comme ça sur les vins blancs. Et ça, j'adore.
C'est vrai que la Rolle, c'est typiquement, j'allais dire un cépage oublié, mais c'est... Oui. Où est-ce qu'on... On le trouvait où, ce cépage?
Vous en aviez, il y en a eu à une époque, il y en a eu un peu en Corse, il y en a eu un petit peu vers plus au sud, vers Bandonne, etc. Mais c'est pas un cépage. En fait, il y a plein de cépages qui ont quasiment disparu. Et là, c'est parfait en termes de, on est face nord, donc on est plutôt à l'ombre. Donc c'est quelque chose qui est important pour la Rolle. Altitude, pas trop de soleil et c'est des maturités plutôt tardives. Mais c'est pour ça qu'avec le réchauffement climatique, il y a plein d'endroits où malheureusement ça devient assez compliqué.
D'accord. Bon, ça j'aime bien l'idée, hein, soit blanc, soit rouge. C'est
original. Mais
comme on dit chez Blood Wine, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace.
Voilà. Donc, alors, le deuxième convention de stage est signé avec Jean-Guillaume. Donc, j'ai un chauffeur-livreur et un conseiller. Voilà.
Ça y est, je suis vieux. Quelle équipe ? Un conseiller. Conseiller spécial du conseiller. Président.
Voilà.
Conseiller. Alors, je vais vous dire, j'ai rencontré un client qui avait ce qu'il appelait dans son langage un conseiller pour ses vins.
Ouais.
C'est pas donné à tout le monde, ça.
Non.
Vous avez parfois certains clients ont des banquiers privés, vous avez quelqu'un, un agent immobilier qui vous conseille. Mm-hmm. Là, c'est quelqu'un qui vous conseille sur le vin. C'est beau quand même.
Bah ouais.
Ouais.
Donc vous avez réussi à devenir conseiller sur les vins.
J'essaie de prendre la place du conseiller habituel, mais
conseiller, vous êtes.
En tout cas, vous êtes quand même notre conseiller. On va le dire, vous êtes notre conseiller pour tous les auditeurs en même temps de la French Radio. Donc vous êtes notre conseiller.
J'imagine que votre client en question, c'est quelqu'un qui est investi dans le vin de grandes sommes. C'est comme ces milliardaires qui ont des gens qui sont payés pour leur faire acheter des œuvres d'art.
Exactement. Mais là, ce que j'aime bien dans la philosophie, c'est que, et c'est là où vous reconnaissez les vrais amateurs de vin, c'est quand vous avez les moyens d'acheter des vins exceptionnels par leur prix, par leur qualité, vous avez des gens qui aiment vraiment le vin et qui recherchent des petits vins sur des prix raisonnables pour justement goûter des choses assez originales. Et donc ouais, là, on est en train de faire cet exercice-là et moi, j'adore. Parce que c'est facile d'aller vendre un Pétrus, hein, tout le monde connaît Pétrus. On aimerait bien en boire plus souvent, malheureusement, non, c'est pas le cas. Mais vous avez plein de petits domaines, de petits vignerons, et c'est ça l'intérêt, c'est d'aller rechercher un vin qui aura peut-être la personnalité, le travail des hommes et des femmes qui le font. Et ça, c'est génial.
Et puis, vous savez, alors, je vais vous parler d'un
temps qui ne. Non, c'est pas ça.
Pardon ? Non, d'un temps que les moins de 20 ans ? Non.
C'est ça, non.
Non, d'un vin. Je suis en train d'essayer de me rappeler. C'est un vin qu'on trouve en Bourgogne qui est mitoyen du Bâtard Montrachet. Sauf que vous le trouvez à 35 euros. Parce que lui, il ne s'appelle pas Bâtard Montrachet, il s'appelle c'est un Saint-Aubin. Je crois que c'est les Murgés aux dents de chien.
Il ne s'appelle pas Bâtard Montrachet, il s'appelle Bâtard Montrachet.
Bâtard Montrachet.
Bâtard Montrachet.
Et vous le trouvez à peu près à 10 fois moins cher. Et géologiquement, c'est le même terroir. Enfin, c'est le même, on va dire, c'est le même vin. C'est pas tout à fait le même vin puisque il a été classé. Ils n'ont pas été classés pareil. Mais voilà, l'amateur, le gars malin, peut se faire un énorme plaisir pour 10 fois moins cher.
Mais vous savez que c'est là aussi l'intérêt de travailler autour des vins. Vous connaissez le château Ozone. Pour en obtenir, c'est déjà très compliqué. La famille a d'autres domaines, et notamment, ils ont un domaine qui s'appelle la Château Saint-Georges, qui est, vous traversez la route qui passe autour du Château Ozone, et c'est le domaine qui est en face. Et vous avez Château Ozone qui vaut une fortune, et le Château Saint-Georges, vous l'avez pour une quarantaine d'euros. Et c'est le même propriétaire, même qualité de travail, etc. Le domaine est tellement proche qu'on pourrait croire que c'est quasiment le même domaine, et vous avez des vins somptueux. Mais comme ce n'est pas une marque, le prix c'est divisé par 10, par 20, par 30. Et c'est ça l'intérêt de travailler avec des gens qui aiment le vin, c'est que chaque jour vous découvrez de nouvelles régions, de nouveaux viticulteurs.
Et ben voilà, et vous découvrez on s'est trouvé parce que nous sommes des grands amateurs, comme vous avez pu vous en rendre compte, et qu'on est content toujours de parler de vin et de découvrir les différents vins que vous nous faites découvrir chaque jour, chaque semaine. Et puis en plus, vous nous faites venir des monstres sacrés. Des viticulteurs, des monstres sacrés pour certains, voilà, qui sont déjà venus intervenir sur l'antenne de la French Radio. Donc on le rappelle,
toujours des gens super à écouter.
C'est génial. Donc merci beaucoup François de Blood Wine, on tient à le préciser. Blood Wine facile à trouver. Vous rendez sur principe réel. Oui, voilà, à force de dire des bêtises, je finissais par plus trouver le terme exact. C'était bien mon truc Bâtard machin, hein, ça.
Ah oui, Bâtard Montrachet. Oui,
Bâtard
oui.
Montrachet. C'est peut-être. voilà. Et vous pourrez nous conseiller les Bâtard Montrachet, les différents, en tout cas, produits, vins, à la fois portugais, à la fois français. Et bien entendu, je rappelle que vous livrez, et ce, gracieusement, et ce, dans tout le grand Lichbois.
Avec le sourire, m'a-t-on dit.
Voilà, en plus.
Et quel sourire.
Bon, allez, eh ben, écoutez, merci beaucoup. On reste sur votre sourire. Merci François.
La modestie en bouteille.
Voilà, la modestie en bouteille. François, bon week-end à vous. Soleil,
bon
profitez
week-end.
Bien, profitez bien ce week-end. On se retrouvera lundi. Jean-Guillaume, la bise à vous aussi. Même week-end à tous.
À
Laurence, bon week-end.
Vous aussi.
Voilà.
Mettez de la crème, Laurence. Hein, je sais que vous lézardez au soleil, mettez de la crème.
Ah ouais, ça, elle a bien lézardé, hein, je peux vous l'assurer. Oh là, je vais me faire engueuler, parce qu'elle va me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte encore ? Bon, allez, je suis un homme, ça, je ne sais pas pour qui sera sensibilisé par ça, Zazie.
Ouais,
et puis ensuite, les infos de Vincent Barraud, c'est le programme classique de la French Radio. Bon week-end à tous, profitez bien, il va faire beau sur quasiment l'ensemble du Portugal. Il va faire chaud aussi. Voilà.
L'été sera chaud, l'été sera chaud.
Bon, par contre, la météo ne sera peut-être pas aussi belle la semaine prochaine. Mais bon, et puis on peut... Mais en tout cas, voilà. Puis vous savez que vous pouvez tous venir, pour les gens qui nous écoutent en France, qui nous écoutent en Belgique, eh bien, vous pouvez tous venir cet été, voilà, nous rendre visite, parce qu'on va même essayer d'aller sur certaines plages pour profiter un petit peu du soleil, faire des animations en direct. On vous en dira un peu plus dans quelques jours. À très bientôt. Ciao, bye bye.
Bon week-end à tous.
À lundi. Ciao. Même heure.
Un singe ou un poisson sur la terre en toute saison. Moi je tourne en rond. Je suis un seul puis des millions. Je suis un homme au cœur de lion. À la guerre en toute saison. Moi je tourne en rond. Je suis un homme plein d'ambition. Belle voiture et belle maison. Dans la chambre, dans le salon. Moi je tourne en rond. Je fais l'amour et la révolution. Je fais le tour de la question. J'avance, avance à reculons. Oui, je tourne en rond. Tu vois, je suis pas un homme. Je suis le pure produit de consommation. Oui.